France Inter.com.
Bonjour, aujourd'hui, deuxième partie de 2000 ans d'histoire consacrée comme hier aux causes de la Deuxième Guerre mondiale qui commençait en Pologne il y a 70 ans jour pour jour, le 1er septembre
1939. La Pologne, pour la première fois, a ouvert le feu cette nuit sur notre territoire. Depuis 5h45, nous répondons aux tirs.
Il y a exactement 70 ans, le 1er septembre 1939 à Berlin, Hitler annonçait le déclenchement en Pologne de la guerre la plus meurtrière de l'histoire. Une guerre préparée depuis que le 5 novembre 1937, il avait réuni dans le plus grand secret les plus hauts responsables militaires de son armée pour leur exposer sa volonté de conquérir l'espace vital qui devait donner aux Allemands les terres, les matières premières et les marchés de l'Europe de l'Est. Un projet pour lequel, après avoir réarmé l'Allemagne, Hitler s'était efforcé pendant 4 ans de la sortir de son isolement. En s'alliant d'abord avec le Japon, puis 2 mois à peine avant la réunion du 5 novembre, en donnant à son pays un nouvel allié, l'Italie fasciste. Le 28 septembre 1937, dans l'immense stade qui avait accueilli les Jeux Olympiques à Berlin un an plus tôt, devant 800 000 personnes, Mussolini déclarait aux Allemands dans leur langue que leur pays et son chef pouvaient désormais compter sur l'amitié de l'Italie.
Vous, Benito Mussolini, avez constaté de vos propres yeux la réalité de l'État national socialiste. L'Allemagne représente de nouveau une puissance mondiale. Benito Mussolini. Il est important que nos deux grands peuples, qui représentent ensemble 115 millions d'individus, soient unis dans leurs décisions. Le monde entier attend avec anxiété le résultat de la rencontre de Berlin. Guerre ou paix? À qui nous le demande, le Führer et moi répondons la paix.
Et c'est pourtant la guerre que Mussolini et Hitler feront ensemble 2 ans plus tard. Une guerre dont mon invité d'aujourd'hui rappelle les causes dans un livre, Les relations internationales de 1918 à 1939. Pierre Milza, bonjour.
Bonjour.
Alors hier, dans la première partie de cette émission, vous nous avez rappelé comment la crise de 1929 avait porté au pouvoir au Japon, en Allemagne et en Italie des politiques expansionnistes qui allaient déclencher la Deuxième Guerre mondiale. Mais jusqu'en 1937, l'Allemagne, vous l'avez dit, était encore totalement isolée et l'Italie n'était pas encore son alliée. Elle s'était même opposée aux ambitions de Hitler lorsqu'en 1934, il avait tenté une première fois d'annexer l'Autriche. Or voici qu'en 1937, à Berlin, en allemand, Mussolini se déclare l'ami de Hitler. Comment expliquer ce renversement d'alliance et quelle réaction vous inspire ce que l'on vient d'entendre?
Alors, il y a d'abord la guerre d'Éthiopie dont nous avons parlé hier, et puis surtout il va y avoir le déclenchement de la guerre d'Espagne. Il y a quand même là deux armées qui combattent côte à côte, du moins donc, qui combattent dans le même camp. Donc l'Italie a déjà fait un pas en avant. En 1937, elle est déjà bien engagée dans la guerre d'Espagne.
C'est ce qu'on appelle l'axe Rome-Berlin. Déjà.
Alors l'axe Rome-Berlin qui va donc être proclamé par Mussolini à Milan en 36. On est encore pas très loin de l'esprit de Stresa. Et dans lequel Mussolini, d'ailleurs, il dit cet axe Rome-Berlin, c'est surtout un diaphragme autour de laquelle doivent s'unir tous les peuples européens. Tout ça est évidemment de la communication, comme on dirait aujourd'hui. Mais en 37, les choses deviennent sérieuses. Car Hitler, qui sait très bien ce qu'il fait, qui connaît le personnage, qui sait qui est Mussolini, invite Mussolini en Allemagne, lui présente un spectacle assez extraordinaire d'un pays en pleine évolution. Avec, alors Hitler promène Mussolini dans la Ruhr, lui fait voir les grandes usines, les troupes alignées, les chars. Enfin, Mussolini est conquis. Il n'est pas conquis par le national-socialisme. Il n'est pas conquis par Hitler. Il n'aimera jamais Hitler. Hitler aime beaucoup plus Mussolini que le sens inverse. Mais il est conquis par la grandeur, par la puissance de ce pays. Et quand il arrive à Berlin, il est absolument snobé par cette foule de 800 000 personnes qui acclament le Führer, parfaitement discipliné. Et alors il y a cette scène au stade olympique, enfin tout près du moins du stade olympique, où Mussolini fait un discours en allemand. Alors quel allemand ? Vous savez, Mussolini parlait bien français, il avait été professeur de français. Il a cru aussi qu'il allait être professeur d'allemand, tout ça dans sa jeunesse, quand il était socialiste. Donc il s'essayait de temps en temps à parler allemand. Enfin là, il avait un texte, le texte avait d'ailleurs été mouillé par la pluie, et il fait ce discours qui se termine par cette phrase qui restera célèbre, « Quand un fasciste a un ami, il va avec cet ami jusqu'au bout ».
Plus tard.
Ça sera Auschwitz.
Oui,
on n'en est pas encore là.
Oui. Alors, même si l'Italie n'a pas été un allié extrêmement solide, il était nécessaire à Hitler pour entreprendre ce qu'il voulait faire. Cela dit, en 1937, il ne se passe pas grand-chose en Europe, vous le rappelez, sinon bien sûr la guerre d'Espagne, mais il n'y a pas de conquête de la part de l'Italie ou de la part de l'Allemagne. En revanche, en 1937, il y a un événement majeur qui se produit en Asie. Vous dites d'ailleurs même qu'il s'agit de l'événement qui marque d'une certaine manière le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'invasion, c'est l'attaque, c'est la reprise de la guerre entre la Chine et le Japon, Pierre Milza.
Oui, parce que les Japonais, à partir de la tête de pont du Mandchoukuo, de la Mandchourie, commencent à grignoter des territoires chinois qui sont tout autour de cette province, enfin province encore que c'est un grand pays, la Mandchourie, et du coup, va y avoir des rivalités, des tensions entre les deux pays, et en fin de compte, une attaque, une agression caractérisée avec des moyens considérables des Japonais contre la Chine, le Shanghai, bonne partie des villes chinoises sont occupées, et surtout, il ne faut pas oublier que la mollesse, la faiblesse de Chiang Kai-shek, qui combat à ce moment-là contre Mao Tse-tung, contre les communistes.
La Chine est divisée,
et qui combat davantage Mao, qui combat les Japonais, fait que la Chine est assez rapidement, non pas conquise dans sa totalité, c'est impossible, mais enfin très largement érodée, disons, par les avances allemandes.
Et là encore, la communauté internationale s'incline, la SDN ne fait rien, ce qui se passera également de la même manière le 12 mars 1938, lorsque l'Allemagne nazie réalisait sa première conquête territoriale en envahissant l'Autriche, dont le chancelier Schuschnigg était contraint de démissionner.
Ainsi, je prends congé maintenant du peuple autrichien, avec un mot d'ordre allemand et un serment au cœur. Que Dieu protège l'Autriche.
Pendant les jours qui suivent, par toutes les routes qui relient le Reich à la frontière, près de 100 000 hommes de troupes allemandes, en formation motorisée, avec tout leur matériel de guerre, viennent occuper les principales villes d'Autriche, dans lesquelles se multiplient réceptions et parades, et s'instaure déjà la loi hitlérienne.
Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs,
en tant que Führer et chancelier de la nation allemande, j'annonce l'entrée de mon pays natal au sein du Reich allemand.
Et oui, il faut le rappeler, Hitler était né en Autriche, dont l'occupation en mars 1938 marque un tournant, parce que c'est la première fois que l'Allemagne conquiert, agrandit le territoire qui lui avait été désigné par les traités de Versailles. C'est la première conquête, en fait, du Troisième Reich, Pierre Milza.
C'est la première conquête, et c'est la première conquête en plus de pays germaniques, puisque le but était d'abord de rassembler autour de l'Allemagne, de la petite Allemagne, les pays de langue, de culture allemande. C'était ça, le pan-germanisme. Alors, ce qui est intéressant de voir dans cette affaire, de l'affaire de l'Anschluss, c'est que Hitler ne s'attaque pas...
Oui, l'Anschluss, c'est le nom qu'on a donné à ce rattachement de l'Autriche
voilà,
à l'Allemagne.
Voilà, c'est que Hitler ne s'attaque pas à un pays, comme ce sera le cas de la Pologne ou de la Tchécoslovaquie, un pays adverse dans lequel il y a un fort sentiment national, mais qui s'attaque à un pays qui souhaite, en fin de compte, majoritairement, nous savons, hein, souhaite majoritairement. Alors je sais bien qu'on nous présente presque toujours dans les livres, vous savez, cette photo où on voit une femme, l'arrivée des troupes allemandes, et une femme qui pleure. Seulement, quand on élargit le champ, puisqu'on a la photo dans un grand air, on s'aperçoit qu'elle est au milieu d'une foule qui salue avec le salut hitlérien, et qu'en fait, cette femme ne pleure pas de douleur, elle pleure de joie. Ouais. De voir son pays, entre guillemets, libéré par les Allemands.
Oui, sauf que ce pays va subir aussitôt les rigueurs du régime nazi et notamment l'antisémitisme qui va se déchaîner en Autriche.
C'est ça, mais ça c'est une minorité oui. Et que là, justement les Autrichiens souhaitaient.
C'est peut-être pour ça qu'une fois de plus, Pierre Milza, il n'y a pas de réaction internationale. Vous insistez longuement sur l'état d'esprit qui règne, notamment en France et en Angleterre, le pacifisme qui fait qu'au fond, que pour préserver la paix, eh bien, on a laissé faire Hitler pendant si longtemps. Et notamment en France, vous rappelez que ce pacifisme, d'ailleurs, fait presque l'unanimité. Il est aussi bien à gauche qu'à droite et même à l'extrême droite.
Fait peut-être pas l'unanimité, mais il occupe un large espace dans les deux secteurs. Parce que lorsque les premiers sondages que nous avons, finalement, dans l'histoire des sondages, nous dit qu'en fait, un certain nombre de Français sont prêts à ne pas laisser Hitler faire n'importe quoi. Mais bon, effectivement, nous sommes... en face d'un pacifisme qui se développe. Il se développe dans deux directions, un pacifisme de gauche, un pacifisme réel, un pacifisme qui s'appuie sur l'horreur qu'a été la Première Guerre mondiale. Hein, les anciens combattants, à part quelques groupes fascistes, ne sont rarement des va-t-en-guerre. Et même ceux qui, quelquefois, vont dans par exemple, les croix de feu de la Roque ne sont pas nécessairement des va-t-en-guerre. Et puis alors, il y a un pacifisme ou un faux pacifisme de droite, c'est-à-dire des gens qui prennent argument de « n'attaquons pas Hitler »,« ne nous battons pas contre Hitler »,« cherchons l'alliance avec Hitler », qui sont, eux, les mouvements fascisants d'extrême droite, les croix de feu, Bucard, voilà, et beaucoup d'autres.
Alors, il y a aussi l'inaction des démocraties, s'explique aussi par la politique d'apaisement incarnée né en Angleterre par le Premier ministre de l'époque, qui est Neville Chamberlain, et qui, lui, veut éviter la guerre à tout prix.
Alors, il veut éviter la guerre à tout prix, bon, qu'il y ait de sa part un pacifisme réel, volonté de ne pas lancer son pied dans la guerre, soit. Mais il y a toujours cette rivalité avec la France, il y a toujours, cette tentation britannique de trouver un accord avec Hitler et pourquoi pas, non pas une alliance militaire, mais un accord, un gentleman agreement finalement avec l'Allemagne. Les Britanniques trouvent que les Français sont beaucoup trop agressifs. Et ils le trouvaient déjà en 1919, les Français sont aux avant-postes, hein. Les Anglais sont dans leur île. Mais malgré tout et malgré ce pacifisme, ils vont commencer en fin de période, plus en 38 qu'en 37, plus surtout après Munich, à se dire qu'il va peut-être falloir réarmer également. Et en choisissant les deux armes qui leur sont le plus familières, en tout cas là où ils sont les meilleurs, c'est-à-dire l'aviation, la construction des fameux Spitfire, et bien sûr les armements navals.
Mais ça c'est plus tard. Chamberlain en fait va tout faire pour essayer d'éviter justement la guerre, cette politique, comme il le disait lui-même, d'apaisement, sur laquelle doit s'aligner le chef du gouvernement français, Édouard Daladier, lorsque, en septembre 38, vous le disiez, pour préserver la paix, eh bien, les deux hommes acceptaient de signer à Munich les accords qui permettaient à Hitler de rattacher à l'Allemagne la région des Sudètes qui appartenait à la Tchécoslovaquie depuis 1919 et où vivait une population majoritairement allemande. On écoute Adolf Hitler à Nuremberg le 12 septembre 1938.
Ce que demandent les Allemands, c'est le droit à l'autodétermination dont tous les autres peuples disposent. Ils ne demandent pas de cadeaux. Monsieur Benesch n'a pas de cadeau à faire aux Allemands des Sudètes. Ils ont le droit de prendre en main leur propre destin, comme tous les autres peuples. Mais j'entends que cesse l'oppression des 3,5 millions d'Allemands en Tchécoslovaquie.
Rien désormais ne semble plus pouvoir arrêter la guerre. Chamberlain, après avoir téléphoné à Daladier, demande à Mussolini de parler à Hitler, lequel accepte de réunir à Munich une conférence.
Mesdames, Messieurs, veuillez écouter M. Daladier, président du Conseil.
La paix, qui semblait perdue, a été sauvée. La vérité, c'est que l'acte de Munich a été un compromis. La vérité, c'est que l'acte de Munich a été un accord de raison.
Oui, ce sont de bons copains, Daladier et Chamberlain. Ils sont francs et réguliers, Chamberlain et Daladier. Ce qu'ils signent de leurs mains, Daladier et Chamberlain. Ce n'est pas un chiffon de papier, Chamberlain et Daladier.
Et c'était Andrex en 1938 chantant cette chanson. Il était question de ce chiffon de papier qui était le 29 septembre 1938, les accords de Munich par lesquels donc la France de Daladier et l'Angleterre de Chamberlain abandonnaient la Tchécoslovaquie en laissant Hitler occuper une partie de son territoire qui était les Sudètes.
Et pas n'importe laquelle des parties de ce territoire, parce que les Sudètes, ce sont des régions qui couvrent le plateau de Bohême sur trois côtés. C'est la forteresse finalement tchèque face au germanisme. Donc, lui enlever ça à la Tchécoslovaquie, c'est lui enlever sa principale défense. Il faut y ajouter, c'est également là que sont les richesses économiques les plus grandes de ce petit État tchécoslovaque, les usines Škoda, etc. Et que c'est donc à la fois retirer à la Tchécoslovaquie sa puissance industrielle. Elle n'est pas nulle dans cette Europe des Balkans, dans cette Europe de l'Europe centrale, et sa puissance militaire. Par conséquent, c'est un abandon qui coûtera cher et c'est un abandon que les Tchécoslovaques n'oublieront pas.
Le problème, c'est que ces Sudètes, cette région des Sudètes, était peuplée, on l'a entendu, d'Allemands, ce qui permettait à Hitler de justifier son exigence.
Bien entendu, c'était son argument, mais c'était quand même un État constitué par les traités de 1919 et où avait commencé à se développer un véritable patriotisme tchécoslovaque et non pas Sudète, Tchèque et Slovaque. Bon. Mais c'est le seul pays d'Europe de l'Est qui pouvait dire qu'il avait des institutions démocratiques, qui n'était pas le cas et de la Hongrie et de la Roumanie, etc.
Et qui était donc l'allié de la France, de l'Angleterre, de l'URSS aussi. Or voilà qu'il est totalement abandonné. On autorise Hitler à s'emparer des Sudètes. Ça a eu des conséquences considérables, vous le rappelez, Pierre Milza, parce qu'au fond, cette affaire de Munich a révélé la faiblesse des démocraties, justement. Et par exemple, notamment dans un pays qui commence à se demander ce que vaut l'alliance de la France et de l'Angleterre, c'est l'URSS.
Absolument. Absolument. L'URSS et Staline n'a jusqu'à se demander si, dans le fond, l'Angleterre et la France ne sont pas en train de préparer avec l'Allemagne une croisade contre l'Union soviétique. Et Staline commence à penser qu'il vaut peut-être avoir deux fers au feu, c'est-à-dire négocier avec les Britanniques et les Français, négocier également avec les Allemands.
Autre conséquence que vous rappelez, Pierre Milza, c'est que voilà encore une annexion qui se fait sans guerre, sans conflit, sans coup de feu. Et ça accroît considérablement le prestige de Hitler, y compris dans son pays où ses adversaires sont totalement désarmés, puisqu'il va de succès en succès. Et même l'armée, qui est très sceptique sur les ambitions militaires de Hitler, l'armée allemande, est obligée de s'incliner. À chaque fois qu'il tente un coup, Hitler le réussit.
Mais tout à fait. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait une opposition de gens appartenant même aux états-majors. D'ailleurs, ceux qui sont contre vont être éliminés par Hitler. Il y a une épuration de l'armée qui va se constituer. C'était la seule opposition. Parce que la seule force véritablement d'opposition Hitler, en 1933 comme en 1938, c'est l'armée. Pas du moment où l'armée, formée surtout d'ailleurs d'officiers appartenant aux classes dirigeantes traditionnelles, à l'aristocratie, ce qu'on va retrouver avec Stauffenberg en 1944, passe du côté de l'hitlérisme, ou du moins laisse faire du côté de l'hitlérisme, les jeux ont fait.
En tout cas, cette affaire de Munich également encourage, et la passivité des démocraties encourage Hitler à aller plus loin encore dans sa politique expansionniste lorsque le 15 mars 1939, l'armée allemande envahissait ce qui restait de la Tchécoslovaquie, tandis que le lendemain, Hitler faisait son entrée à Prague.
Le 12 septembre dernier, M. Hitler avait dit « Ce que les Allemands demandent, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. » Le 26 septembre, M. Hitler avait dit « Le problème des Sudètes est notre dernière revendication territoriale en Europe. » Le 29 septembre dernier, l'accord de Munich, paraphé par les gouvernements français, anglais, allemand, italien, terminait la crise extrêmement grave que le problème des Sudètes avait ouverte en Europe. La France et l'Angleterre s'inclinaient. La Tchécoslovaquie consentait à l'amputation de son territoire et l'Europe prenait acte des assurances données par le Führer. Le 16 mars, au mépris de sa parole, M. Hitler entre à Prague. Un attentat inqualifiable a été perpétré contre la Tchécoslovaquie. Par sa seule volonté, l'Allemagne envahit le pays dont elle s'était engagée à garantir l'existence.
On vient de l'entendre, Pierre Milza, le ton des actualités de l'époque, en mars 38, lorsqu'Hitler a annexé ce qui restait de Tchécoslovaquie, n'est plus du tout le même que six mois plus tôt à Munich. Cette fois-ci, c'est la colère qui domine dans la voix de ce journaliste, je pense aussi de l'opinion française, parce que pour la première fois, cette fois-ci nous sommes en mars 1939, pour la première fois, Hitler envahit un pays qui n'est pas peuplé d'Allemands.
Tout à fait. Vous remarquez notamment, néanmoins, que c'est M. Hitler.
Oui.
Et ce qui revient le plus souvent, notamment dans les textes des journaux, c'est le chancelier Hitler. C'est-à-dire qu'on conserve quand même une certaine prudence et un certain respect, au moins dû à la force des Allemands. Et ce qui est important dans cette conférence de Munich, de comprendre dans cette conférence de Munich, c'est le rôle qu'a joué l'Italie.
Parce qu'en ça, fait, c'était auparavant. Nous venons d'évoquer l'invasion de la Tchécoslovaquie
oui,
en mars 39.
Oui, mais justement, sur l'ensemble de la période et également dans cette deuxième partie. Parce que nous sommes à un moment où Mussolini, dans le fond, ce qui l'intéresse encore, ce n'est pas la guerre. Mussolini, malgré son alliance avec Hitler, ne veut pas faire la guerre.
En tout cas, pas
mais
tout
c'est
suite.
La métaphore de la guerre.
Oui.
C'est-à-dire que la stratégie de la tension lui permet de justifier sa position, de réarmement, alors que dans le fond, il n'est pas prêt, qu'il n'a pas du tout l'intention de s'engager dans la guerre.
Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs? Il n'a pas été prévenu par Hitler de l'invasion de la Tchécoslovaquie en mars 1939. Du coup, il fait pareil et il envahit l'Albanie.
Voilà. Alors, l'Albanie, c'est pas la Tchécoslovaquie, mais enfin, c'est quand même un acte de piraterie internationale qui est entériné par la société internationale.
Alors, à ce moment-là, Pierre Milza, nous sommes en mars 39, plus personne ne se fait d'illusions cette fois-ci sur les intentions de paix, entre guillemets, de Hitler, qui parle tout le temps de paix et qui en parlera jusqu'au bout. On s'approche de la guerre, on s'y prépare des deux côtés, d'une part en se réarmant encore plus vite, mais aussi en consolidant ses alliances ou en cherchant de nouveaux alliés. L'Allemagne signe avec l'Italie ce qu'on a appelé le pacte d'acier. Et puis, il y a également une alliance qui est conclue avec la Pologne, car Hitler a des visées désormais en Pologne. Après la Tchécoslovaquie, ce sera le tour de la Pologne. Et puis, on envisage aussi de resserrer les liens avec l'URSS. Or, coup de théâtre, le 23 août 1939, 9 jours avant la guerre, est signé un pacte germano-soviétique entre l'Allemagne d'Asie et la Russie soviétique. Ça, c'est peut-être la chose qui a le plus étonné, surpris, choqué, bien entendu, le monde entier. C'était apparemment deux régimes totalement opposés, et les voilà qu'ils vont s'allier à la veille d'une guerre, d'ailleurs, que ce pacte rend possible pour Hitler.
Alors, c'est le coup de tonnerre dont on juge à l'époque que c'est une surprise. Mais aujourd'hui, où nous savons, par tous les travaux qui ont été faits sur l'Union soviétique, sur le Goulag, sur le Livre Noir, etc., que dans le fond, on avait deux dictatures qui, avec des manteaux d'apparence différents, poursuivaient en fin de compte des politiques qui n'étaient pas si éloignées l'une de l'autre.
D'autant plus que ce pacte germano-soviétique de non-agression était assorti d'un protocole secret qui prévoyait le partage de la Pologne. Au fond, Staline se comportait comme Hitler avec des ambitions, non pas comme Hitler à l'Est, mais à l'Ouest.
Alors d'abord, c'était pour l'histoire de la Pologne, le retour au partage du XVIIIe siècle, sauf qu'ils n'étaient pas trois, mais ils étaient deux. Et effectivement, les Allemands vont prendre leur part, qui est d'ailleurs la plus importante, la part occidentale, et les Russes vont prendre l'autre partie. Mais ça ne suffit pas, on prévoit également la liquidation des pays baltes. C'est déjà presque un partage de l'Europe entre ces deux grandes puissances.
Et un marché de dupes, parce que Hitler n'a pas renoncé à ses ambitions à l'Est, son espace vital. D'ailleurs, il entrera en guerre contre l'URSS quelques temps plus tard. Mais en attendant, on est à la veille du déclenchement de la guerre mondiale. Elle semble désormais inéluctable. Hitler exige de rattacher le port de Danzig au reste de l'Allemagne. Les Polonais refusent. Et finalement, à la suite d'une provocation communication organisée par les SS, eh bien, Hitler fait envahir par l'armée allemande la Pologne. C'était le 1er septembre 1939, il y a 70 ans aujourd'hui. L'Allemagne donc envahissait la Pologne et déclenchait la guerre la plus meurtrière de l'histoire.
Le 1er septembre, à l'aube, les troupes allemandes attaquent la Pologne sans déclaration de guerre. Le peuple polonais tout entier fait face à l'agresseur. Calme, résolu, les Français rejoignent leur corps, sachant que c'est pour abattre la plus effroyable des tyrannies qu'ils prennent les armes.
Dans le plus grand calme, les réservistes rejoignent les points de concentration qui leur sont désignés. Dans les casernes, les rappelés prennent livraison de leur pactage.
Et oui, car cette fois-ci, l'Angleterre et la France entraient en guerre après avoir laissé faire Hitler et Mussolini pendant des années, mais elles entraient en guerre au pire moment, alors qu'elles étaient plutôt isolées, n'avaient pas les moyens de la faire, et surtout dans une guerre donc dont on vient de voir avec vous les conséquences. À la fin de votre livre, Pierre Milza, vous dites que cette guerre n'était pas inéluctable, contrairement à ce que l'on a souvent répété.
Alors, la guerre n'était pas inéluctable pour... D'abord, une bonne raison, c'est que les traités de paix de 1919 pouvaient être faits autrement. Il est clair qu'en privant l'Allemagne du 7e de son territoire, de à peu près autant de sa population, en lui enlevant sa défense, sa flotte, son aviation, son artillerie lourde, en lui faisant payer 132 milliards, enfin, en attendant d'elle qu'elle paye 132 milliards de marques or, etc., etc. Il y avait encore beaucoup d'autres mesures vexatoires. On faisait de l'Allemagne un adversaire incontestablement difficile à calmer. Or, on ne l'a pas fait, on a maintenu cela. Alors, on peut imaginer que si la paix avait été un petit peu moins dure... Oui. On pouvait peut-être éviter une guerre.
Mais il y a eu surtout aussi les illusions qu'on s'est faites sur la paix et les raisons, c'est la raison pour laquelle on a laissé faire Hitler et Mussolini pendant si longtemps. Il y a cette espèce de lâcheté, d'abandon, de faiblesse des démocraties, Pierre Milza, c'est indiscutable.
Tout à fait.
Au nom du pacifisme.
Au nom du pacifisme, au nom aussi que, n'oublions pas que parmi les pacifistes, il y avait tous ceux qui ont cru très sincèrement qu'on pouvait se réconcilier avec l'Allemagne. On a dit que c'était rien passé en 37, c'est vrai, mais il y a eu une tentative de rapprochement Blum-Delbos avec Chartres venant à Paris et dans le fond à qui on a fait des propositions de rendre des colonies allemandes par exemple. Mais Hitler à ce moment-là a rejeté tout cela.
Merci Pierre Milza de nous avoir rappelé hier et aujourd'hui les causes de la Deuxième Guerre mondiale qui commençait il y a exactement 70 ans. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Les relations internationales de 1918 à 1939 » publié chez Armand Collin. Je recommande aussi la sortie de votre dernier livre, sans aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui, puisqu'il est consacré à la Commune de Paris et s'intitule « L'année terrible ». Il sort chez Perrin la semaine prochaine. À lire également « Les années du cauchemar » 1934-1945 de William Scherer, réédité chez Texto, le volume 2 du Troisième Reich 1933-1939 de Richard Evans, publié chez Flammarion, et 1939, Demain la guerre, de Richard Ovry, qui vient d'être publié aux éditions du Seuil. Je signale enfin l'apparition d'un nouveau magazine, Histoire de la dernière guerre, 1939-1945 au jour le jour, et je rappelle également que France 2 diffuse une série documentaire en 6 épisodes de 52 minutes intitulée Apocalypse, et qui sera sur France 2 les 8, 15 et 22 septembre à 20h35, une série disponible en coffret de 3 DVD le 23 septembre aux éditions France Télévisions. Vous avez pu entendre des archives pâtées de 1938 et 1939, extraites du journal de votre année, et disponibles en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pierrick Monsigny. Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Marie Jarros et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.